Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alba pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site Radio Alpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de plein de trucs, dont les valeurs du libéralisme économique. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, des laits infantiles sont contaminés par de l'huile toxique venue de Chine, ce qui permet de savoir que dans le lait infantile, il y a plein de trucs, mais pas que du lait. Les producteurs de lait infantile annonçaient au compte-gouttes le retrait de quelques lots. C'est une technique habituelle de gestion de crise, distiller petit à petit les numéros des lots qui sont dangereux. C'est la même chose qui a eu lieu dans l'industrie. Par exemple, à propos des airbags tueurs, vous avez entendu parler de ça? Oui, les gens se croyaient sauvés, mais non, l'airbag leur explosait à la figure. Les consommateurs si bien nommés ont eu le droit à la même chose avec les airbags tueurs. Oh ben non, on va enlever alors telle catégorie. Ah ben vous avez telle immatriculation? Non, pour l'instant ça va. Oh, puis deux semaines plus tard, trois mois plus tard, plusieurs siècles plus tard, on apprendra encore qu'il y avait des airbags tueurs qui n'ont pas été récupérés. Et les exemples sont légion. L'idée est de faire croire au caractère exceptionnel des problèmes, pour que le consommateur, toujours aussi bien nommé, garde la confiance dans les marques. Tiens, bah de fait, Danone, vendredi, a fait un petit peu de retrait. Ça fait un petit peu flipper au niveau de la traçabilité, s'ils ne sont pas capables du jour au lendemain de nous dire « Non, alors il y a 127 000 lots qu'il faut enlever et qu'ils les distillent comme ça, petit à petit. » Mais je rappelle que les valeurs du libéralisme font que ce qui est important, ce n'est pas la vie des gens, mais plutôt ce qu'on va pouvoir gagner comme pognon. Alors si ça tue des bébés, on aurait pu vous parler des responsabilités de la violence dans cette société. Après avoir incarné la Startup Nation disruptive, le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep ne propose plus que les jeunes aient envie de devenir milliardaires. Non, ça lui est passé ça. Il s'est mué en défenseur du développement cérébral des enfants et des ados. Une loi devrait interdire l'accès aux moins de 15 ans aux réseaux sociaux à partir de septembre 2026. C'est une idée à lui. Bon non, en fait, c'est une prolongation d'une recommandation officielle basée sur le programme de Serge Tisseron, un psychiatre qui travaille sur les écrans depuis le début du 21e siècle et qui a pondu le fameux programme 3-6-9-12+, hein, pour introduire petit à petit les écrans dans la vie des enfants. Tiens, bah, pas avant 3 ans par exemple. Et puis de 3 à 6 un petit peu, puis de 6 à 9, et puis de 9 à 12. Et puis à partir de 12 ans, une fois que t'as bien expliqué au gamin qu'il est bien intégré, qu'il a bien intégré l'idée que c'était dangereux pour sa santé mentale, eh bien tu peux le laisser sur les réseaux sociaux. Bon ben ce programme, il date de 2008. Hein. Mais le pété de la rep actuel vient de s'en apercevoir. Eh bien, il veut aller plus loin, Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il disait cette semaine sur le média Brut, qui a été racheté il n'y a pas si longtemps par un milliardaire, comme tous les médias quasiment, Rodolphe Saadé, qui est à la tête de la CMA-CGM, l'armateur. Ça se passait en septembre 2025, ce rachat. Mais pour la voix d'Emmanuel Macron, n'oubliez pas d'éloigner les enfants, c'était la semaine précédente.
Je pense qu'il faut sensibiliser les parents et les jeunes en disant « Passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série à s'habituer à de la violence », ça vous conditionne, ça vous fait pas de bien. Ça, c'est vrai. Et donc, pour ça, moi, j'ai souhaité lancer un travail, ça, c'est ce qu'on va poursuivre, qu'on va confier à des experts. Donc, il y a deux choses qu'on va lancer, qui sont pas les messageries, qui sont pas les réseaux sociaux. Il y a deux choses qu'on va lancer. L'un, sur les jeux vidéo, on va confier à des experts et avec au Conseil national du numérique et de l'IA aussi, un travail pour justement voir, essayer de mesurer scientifiquement l'effet que ça a.
Et qu'est-ce que vous en attendez
sur les enfants et les ados? Bah, j'attends justement qu'il y ait un consensus scientifique.
Moi, ouais, un consensus scientifique, c'est ça qu'il attend, Emmanuel Macron. Tout à coup, et à la faveur de faits divers particulièrement spectaculaires, Emmanuel Macron s'est aperçu que la société, et donc les humains qui y vivent, est de plus en plus violente. Et il veut y faire quelque chose. Il s'est mué en grand sage. Et en violence, il s'y connaît. On n'oubliera pas la répression des gilets jaunes pour la violence physique, ni le mépris de ces petites phrases comme « les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien ». Des sorties sur les Comoriens aux Comores, où l'État français possède une colonie. En termes de violence verbale, il est sympa aussi, Emmanuel Macron. On n'oubliera pas non plus la violence symbolique dont il a usé en permanence depuis 2017, comme le grand débat de 2019 qui n'a rien donné malgré les promesses, comme la Convention climatique citoyenne à laquelle il ment sans vergogne dès l'inauguration de la convention en question, en assurant que les conclusions seront reprises par le Parlement, alors qui sait très bien que non. Mais d'où lui vient cette morgue? Eh bien, qu'ils viennent me chercher, avait-il dit aux gilets jaunes alors qu'il est protégé par des bataillons de flics. Et d'où lui vient cette supériorité? Souvenez-vous, il avait dit les exercices, enfin il avait fait des exercices de faucon yaka qu'il a asséné à la population à une assemblée de maires durant le grand débat en 2019. Ces passages télé où tout ce qui foire est de la faute de quelqu'un d'autre, mais surtout pas de lui. Ces numéros d'autosatisfaction à chaque vœu du 31 décembre. D'où lui vient ce manque d'empathie et son incapacité à assumer ses échecs? Eh bien, peut-être de sa formation. Quand on est plusieurs heures par jour pendant 2 années scolaires dans un conclave de bien-nés, sûrs de soi, appelé l'ENA, à apprendre à diriger la populace, ça vous conditionne. Ça vous fait pas de bien. Peut-être ça lui vient aussi du milieu professionnel très violent qu'il intègre rapidement après avoir fait 3 ans à l'inspection des finances, à savoir le monde de la banque d'affaires où la compétition entre élites se fait entre gens bien mis qui agissent comme des brutes. Parce que quand on passe un certain temps dans ce genre d'endroit, eh bien finalement ça vous conditionne. Ça vous fait pas de bien. À ce propos, si vous voulez les voir à l'œuvre, vous pourrez regarder la série Ravage, une série canadienne sur Arte, où là, on voit plein de gens qui, en fait, agissent comme des brutes, mais bien habillés. Revenons à la banque d'affaires. Parce que passer 4 ans à conseiller des ventes, des rachats, dont le but est d'accumuler du capital et non pas l'épanouissement des ressources humaines, ça vous conditionne. Ça vous fait pas de bien. Son rôle actuel de président de la République y est peut-être pour quelque chose aussi sur son manque d'empathie et compagnie. Parce que passer son temps déconnecté du quotidien à inaugurer des grands chantiers, à côtoyer d'autres inflationnés de l'ego avec lesquels on est en compétition pour la place sur la photo et arbitrer ou organiser des batailles rangées de sous-fifres qui se voient tous califes à la place du calife, ça vous conditionne. Ça vous fait pas de bien. Alors ok, monsieur Macron, pour rechercher si les jeux vidéo rendent plus violents. Mais que l'on explore aussi d'autres candidats, que la promotion de la compétition soit scientifiquement interrogée, que les conséquences des discours des pompiers pyromanes seulement animés par leur carrière, comme un Retailleau ou un Darmanin, soient évaluées. Et si on s'aperçoit que ces comportements sont nocifs pour la société, donc pour tous les êtres humains organisés ensemble qui participent à cette société, eh bien que nos élites pondent une loi pour les sanctionner. Parce que ça, ça nous conditionnera et ça nous fera du bien. Sinon, pour les jeux vidéo, on a déjà la conclusion. Écoutez bien la fin de cet extrait.
Je pense qu'il faut sensibiliser les parents et les jeunes en disant passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série à s'habituer à de la violence, ça vous conditionne, ça vous fait pas de bien. Ça c'est vrai.
Eh ben ça c'est vrai, il sait déjà quelle est la conclusion. On aurait aussi pu vous parler des Jeux Olympiques qui commencent en Italie avec de la neige, mais surtout le triptyque de l'enfer, compétition, classement et nationalisme sportif. Nationalisme sportif qui, comme tout nationalisme, renforce à chaque fois les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, comme disait l'autre. Dans 4 ans, c'est en France, les Jeux Olympiques d'hiver. Vous savez, le pays où le budget est si difficile à boucler. Mais on peut dégaspiller quand même pour faire quoi? Du nationalisme sportif, de la compétition et du classement. On en reparlera la prochaine fois. Dans la série « Quand la connerie sera vendue au kilo, on saura où aller se fournir », on aurait pu vous parler des victimes. Des victimes, des victoires du Parti Socialiste dans le budget déjà si rikiki et qui sont remis en cause par le gouvernement Le Cornu. Et oui, le gouvernement Le Cornu qui, cette semaine, a saisi le Conseil constitutionnel pour vérifier si des taxations de gros bourgeois sont conformes à la Constitution. Alors bien sûr, les technocrates du droit fiscal, pour eux, c'est juste blinder des dispositifs pour les rendre applicables. Gars, tu vois, merde, fais chier. Mais pour les libéraux qui nous gouvernent, c'est surtout rassurer les milieux d'affaires et trahir les traîtres. Si le Conseil constitutionnel retoque 1 ou 2 ou les 3 mesures qui sont mises sur la sellette par Le Cornu, l'expression « membre du Parti Socialiste » risque de remplacer rapidement celle d'idiot utile. Par contre, on ne peut plus parler du chauffage dans les écoles primaires. Non, ça c'est fini, c'est bon là, on arrête. Hein. Bon bah d'accord, on arrête. Alors à la place, on a préféré encore et encore donner la parole à Thomas Simon de Fréquence Commune à propos des municipales.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Ça y est, c'est bouclé. Pour certaines listes, le programme est en construction. Pour d'autres, la liste elle-même n'est pas encore arrêtée. Mais on a les 7 têtes de gondole. Toutes les têtes de liste candidates à la mairie de Le Mans sont sur la sellette. La dernière en date est Marietta Caramanli. Pour les écologistes, associés aux dissidents du PS de Citoyens écologistes et solidaires, dont la chef de file est Marietta Caramanli, vous y associez le Parti communiste français et le collectif Fraternellement. Et ça vous fait la super liste qui sera sera donc dirigée maintenant par Marietta Caramanli. Elle a hésité, mais elle a senti l'appel des partis. L'appel des collectifs citoyens, l'appel des associations, l'appel des personnes, plein d'appels. Comme elle le dit dans l'interview vidéo visible dans les médias locaux. Comment cette tête de liste a été déterminée? Comment la population a-t-elle été associée à la détermination de cette tête de liste ou à la rédaction du programme? Autant de questions que nous poserons à la liste en question si l'occasion se présente. Des questions parmi tant d'autres qui permettent de définir le caractère démocratique de la liste, si on en croit la boussole démocratique du réseau Action Commune. Trouvable sur actioncommuneaupluriel.org. Dans l'onglet ressources, vous verrez tout de suite c'est marqué boussole démocratique. Oh, plein de questions. Et là, on s'interroge un petit peu. Quand on teste la boussole démocratique et nos listes locales, on se dit, ah mince, ça manque un tout petit peu de démocratie dans cette démocratie représentative. Le réseau Action Commune, d'où est issu, Fréquence Commune. Une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif dont nous avons décrit l'histoire et le rôle dans l'émission précédente, avec Thomas Simon. Thomas Simon qui est l'un des initiateurs, l'un des créateurs de cette société coopérative. La dernière fois, la distinction très importante entre le modèle démocratique et le modèle républicain, que je vous engage à écouter, que je vous encourage à écouter plutôt la dernière émission, cette distinction entre modèle démocratique et modèle républicain nous a permis de nous interroger sur la fumeuse démocratie représentative, avec son cortège d'ego trip et ses carriéristes politiques à la Fillon ou Bardella. J'aurais pu en choisir à gauche. Non, j'ai pas parlé du Parti Socialiste. Mais par contre, on peut mettre Glucksmann, j'ai appris qu'il était de gauche. Alors comment augmenter le caractère démocratique de la République française? La parole à Thomas Simon.
Comment faites-vous pour augmenter et organiser la participation démocratique des habitants? Est-ce que vous pourriez nous donner l'exemple d'un outil?
On utilise beaucoup le tirage au sort. Le tirage au sort est vraiment une arme de la démocratie pour nous. En gros, ce qui marche bien, c'est que quand on a des élus vraiment volontaires pour partager les décisions, prenons justement l'avenir de la station de ski dont je parlais, les élus peuvent très bien décider de les garder ouverts ou de fermer la station de ski. Au lieu de faire ça, ils disent c'est pas à nous de décider, on va décider ça avec la population. Et donc, il ne suffit pas de proclamer ça et d'organiser une réunion publique pour réussir à faire de la démocratie. Ça demande des compétences de facilitation, d'organisation de réunions, mais ça demande du temps et de la mobilisation, parce qu'en gros, ce qui se passe souvent quand on fait ce genre de réunion, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui viennent à ce genre de réunion, ceux qui sont dans les canaux de la mairie, qui suivent l'infolettre, qui vont de temps en temps voir le journal municipal. Et donc, c'est une catégorie de la population, souvent plus aisée, qui suit ça. Et donc, on a un peu toujours le même type de profil et un peu toujours les mêmes déjà engagés, déjà investis, qui suivent ce genre de réunion. Et donc, un des outils les plus puissants de mobilisation, c'est le tirage au sort. Donc, nous, on utilise une technique qui a été inventée par une des communes participatives, qui est le tirage au sort sur les adresses, sur le cadastre. On tire au sort des numéros d'adresse. Les élus vont faire du porte-à-porte pour inviter les gens à participer à la réunion qui sera décisionnaire, ce qui n'est quasiment jamais le cas en démocratie participative. Et donc là, c'était sur, par exemple, au plateau des Petites Roches en Isère, sur l'avenir de la station de ski. Et donc, ça permet d'organiser une série de réunions pour, comme une convention citoyenne, avoir toutes les informations à la fois techniques, politiques, budgétaires, pour que le groupe de citoyens puisse remettre une décision, la décision qui va être appliquée telle quelle par les élus et votée au conseil municipal.
Alors, on est loin des réunions sur la couleur des pots de fleurs. Mais si, vous y êtes allé en croyant que votre avis allait compter, vous y avez croisé ceux qui viennent toujours parce qu'ils ont le temps ou de l'appétence pour ce genre de réunion, ou alors parce qu'il y a un buffet campagnard gratuit. On vous a présenté lors de cette réunion des super animations 3D avec un bulletin à la fin sur une question accessoire avant de boire le coup de l'amitié. Eh ben, on est très très loin de ce genre de réunion. À toutes les listes qui se disent de gauche, pour en savoir plus sur le tirage au sort, on vous conseille de mettre le nez dans le rapport rédigé sous la houlette de Fréquence Commune qui s'intitule « Prendre le pouvoir pour le partager ». Oui, oui, c'est sûr que ça ne s'adresse pas à un certain nombre de têtes de liste. Ce rapport, on peut le télécharger sur fréquencecommune.fr. Dans l'onglet ressources, encore, vous cherchez le rapport d'analyse 2020-2026. Allez, on vous donne même les pages sur le tirage au sort, c'est pages 167 à 174. Plein de trucs intéressants. Depuis de nombreuses années, la démocratie représentative se pare de participation. Et on l'appelle d'ailleurs parfois la démocratie
participative, comme si la démocratie ne pouvait pas être participative. Eh bien, pour cette participation citoyenne, il existe des structures qui sont même parfois obligatoires, suivant la taille de la commune. Qu'en pense Thomas Simon ?
En ce moment, dans les municipalités, on entend beaucoup parler de conseils de quartier. Il y a parfois des budgets participatifs. On entend aussi beaucoup parler de co-construction, mais très très peu de co-décision.
En fait, la participation citoyenne, ça fait 30-40 ans que ça existe. Plus ou moins sincèrement, les élus vont consulter la population. Il y a des élus très sincères qui ont vraiment envie de savoir plus que ce que pense la population sur la piétonnisation, sur un aménagement urbain, sur une politique publique, et d'autres qui font semblant pour légitimer une décision qu'ils ont déjà prise. Mais en tout cas, ce phénomène de participation et de consultation d'avis de la population, il est assez organisé et avec une méfiance aussi de la part de la population qui sait que de toute façon, ils n'ont pas la main sur la décision. Et donc nous, on utilise une échelle de la participation à quatre barreaux. Le premier barreau, c'est l'information. Juste une réunion d'information pour expliquer les décisions qui sont prises. Le deuxième niveau, c'est la consultation, c'est-à-dire on va prendre l'avis des habitants et après on va décider, en prenant en compte ou pas cet avis, les élus vont prendre la décision. La co-construction, donc c'est travailler ensemble à imaginer ce qu'on pourrait faire pour un parc, pour une politique publique, pour rendre la cantine plus bio, pour la piétonnisation, pour une décision politique. Et la co-décision, c'est de dire nous, élus, nous nous déléguons du pouvoir de décision que nous remettons à une instance, une assemblée, à un groupe de citoyens qui travaillent. À Saillant, ils ont fait ça par exemple sur le PLUI. Ils ont dit 15 citoyens tirés au sort vont décider du PLU. Est-ce que les zones sont constructibles ou pas dans le village ? Donc un enjeu hyper important pour les habitants. Ils ont délégué ça à un groupe d'habitants. Ils ont ensuite appliqué la décision du groupe d'habitants. Donc ça, c'est pas légal de faire ça, c'est anticonstitutionnel. L'Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers, qui se voulait décisionnaire, a été attaquée par la préfecture. Du coup, la ville de Poitiers a reçu un mail de la préfecture en disant « Vous ne pouvez pas rendre cette assemblée décisionnaire. Dans la Ve République, les élus ne peuvent se dessaisir de leur pouvoir décisionnaire. » Donc c'est pour ça qu'on parle d'un fonctionnement républicain. Mais en fait, ils l'ont fait quand même, c'est-à-dire qu'ils ont dit « Ok, c'est consultatif, mais on suivra l'avis de l'Assemblée. » Donc la délibération dit que c'est consultatif, mais dans les faits, ils le font. Donc c'est un engagement moral des élus. Mais ça s'organise très bien aussi dans la Ve République. C'est juste que ça dépend de la bonne volonté des élus de suivre la décision de l'Assemblée.
Et oui, sachez-le, la Constitution est antidémocratique. Si c'est pas dingo, ça. Lisez l'article 3. Il y est dit, dans cette Constitution de la Ve République de 1958, la souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, alors moi, je préfère la souveraineté populaire, mais bon, l'ami Sieyès est passé par là. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et un peu plus loin, toujours dans l'article 3, le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. La démocratie, bah ça y est. C'est devenu le vote pour des représentants qui ensuite n'ont aucune obligation à respecter leur programme. Mais non, c'est pas ça la démocratie. Ils n'ont même pas à respecter leurs promesses. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas simplement être passé du côté de l'électeur alors que vous étiez auparavant des citoyens. Eh bien, cet état de fait est lui-même verrouillé dans la Constitution. Le fait de ne pas avoir à respecter son programme ou ses promesses. Dans l'article 27, toujours de la même Constitution, qui parle du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, on y lit « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. » Dans le cas de l'article 27, on parle des députés et des sénateurs. Mais la règle de vote des élus est la même dans les autres lieux de décision, du conseil régional au conseil municipal. Les représentants votent selon leur bon plaisir, sans avoir à représenter qui que ce soit. Alors arrêtez de vous appeler représentant. Donc pour que la population soit véritablement associée aux décisions communales, on ne peut que compter sur l'engagement moral des élus. Heureusement, tous n'ont pas la morale d'un Emmanuel Macron, dont on se souviendra, comme on l'a dit tout à l'heure, des engagements auprès des membres de la Convention citoyenne sur le climat, qu'il n'a pas respecté. Par exemple, on apprend que des élus de Poitiers, actuellement, depuis 2020, ont créé une assemblée citoyenne et populaire. À Ungersheim, également en Alsace, d'ailleurs petit teaser, nous avons eu le plaisir d'interviewer le président du conseil municipal, qu'on appelle souvent le maire d'Ungersheim, et nous l'entendrons dans une émission prochaine. Donc à Poitiers, à Ungersheim et dans d'autres communes, des citoyens prennent des décisions qui sont soumises aux élus, qui les votent
tels quels. Donc, comme des porte-parole, comme des représentants qu'ils devraient être partout. Pour faire la publicité de toutes ces initiatives démocratiques, Fréquence Commune a produit un document. Mais lequel ? On en a déjà un peu parlé.
Fréquence Commune a pour objectif de documenter les alternatives développées par les communes où il y a une municipalité participative, où les élus ont décidé que c'était participatif. Est-ce que tout ça, ça permet d'éviter aussi ce qu'on pourrait appeler l'atomisation ? C'est-à-dire que chacun fait son truc dans son coin, mais finalement, ça n'est pas connu du reste des acteurs.
Au début, on est beaucoup allé sur le terrain, on a beaucoup accompagné les élus, on a inventé ensemble de nouvelles manières de faire, déjà en interne et puis avec la population. Et donc, on a peu fait de recherche, d'analyse et de communication, mais chemin faisant, voyant les expériences qui réussissaient, et puis toutes celles qui ne marchaient pas aussi, hein, qu'on raconte pour raconter les échecs, c'est aussi hyper apprenant. On a petit à petit, notamment l'année dernière, financer tout un travail de recherche qui a pris plus d'un an avec 200 entretiens d'habitants, d'élus, d'acteurs des territoires des communes participatives. Donc c'est un rapport qui s'appelle « Prendre le pouvoir pour le partager » qui est disponible gratuitement sur le site de Fréquence Commune. C'est un gros pavé, hein, c'est 200 pages, mais il y a plein de choses à aller voir dedans, qui a été mené par Elisabeth Do, une des fondatrices de la coopérative. Ce travail d'analyse, c'est pour apprendre, au moins laisser cette trace déjà, de ce qui marche et ce qui marche pas, les apprentissages communs. Et l'autre endroit qui marche beaucoup pour faire ça, c'est dans le réseau Action Commune et notamment dans les rencontres des communes participatives. C'était la 7e édition l'année dernière à Poitiers. Et donc là, c'est un espace d'échange et d'entraide entre les élus qui essaient de réinventer la démocratie locale.
Je ne sais pas si on vous avait dit qu'il y a un super rapport à consulter quand on est démocrate pour savoir ce qui se fait ailleurs, fréquencecommune.fr. Ah, et puis quand on est démocrate, on aimerait aussi s'occuper de nos affaires, à la place des élus. On continue avec Thomas Simon.
À la vue des sondages, les gens ne croient plus trop à la démocratie représentative. Une grande partie de la population ne va plus voter. Est-ce que vous auriez aussi des outils pour lutter contre cette verticalité ? C'est-à-dire quand les décisions sont prises tout en haut et que tout en bas, on a l'impression d'être laissé sur le bas-côté.
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter d'attendre que les élus en place le fassent. Ils ne le feront pas. Et la plupart des partis politiques de gauche et de droite sont convaincus du bien fondé du fonctionnement représentatif. Et donc, on dit aux gens, prenez le pouvoir et prenez le pouvoir dans les communes. Mettez au pouvoir des élus et des maires dans vos communes qui seront vraiment convaincus de la nécessité impérieuse de partager le pouvoir si on veut pas aller droit dans le mur. Sur les questions écologiques, sur les questions sociales. Si on veut arrêter de nourrir la montée de l'extrême droite, il faut reprendre en main le pouvoir sur nos vies. Et ça, c'est tout le monde qui peut le faire. Les municipales 2026, c'est en mars. Il y a encore temps de monter des listes dans ces communes, notamment dans les 34 000 petites communes qu'on a, parce que il y a 34 000 communes en France de moins de 10 000 habitants. Il est encore temps de lancer des listes. Et nous, la conviction profonde qu'on a eue, parce qu'on a aussi bossé avec des gens qui n'étaient pas issus des listes participatives et qui n'y croyaient moins, qui étaient plus issus des partis politiques. Et on voit que ça marche pas du tout, parce qu'à la fin, très très souvent, la décision est récupérée par les élus et du coup, le processus participatif est dévoyé et du coup, ça crée du désengagement fort de la part des habitants. Pour nous, il faut réinventer la politique, mais c'est en changeant les élus et en mettant au pouvoir des gens qui sont vraiment convaincus de l'importance de la démocratie directe.
Ça demande une certaine confiance de la part de l'électeur, parce qu'il y a un verrouillage législatif. Vous parliez de la préfecture tout à l'heure, donc les services de l'État vérifient si les décisions prises par les municipalités sont conformes. Mais il y a aussi, par exemple, la communauté de communes qui a maintenant beaucoup des compétences qu'avaient auparavant les communes.
Oui, c'est un grand défi des citoyennes participatives pour 2026, c'est de gagner des intercommunalités, donc de gagner des villes-centres et en fédérant au niveau intercommunal pour avoir les leviers budgétaires de compétences des intercommunalités qui gèrent beaucoup de choses essentielles à nos vies. Donc c'est un des défis qu'on s'est lancé collectivement tous ensemble d'essayer de gagner des intercos pour montrer que c'est possible aussi de faire de la démocratie directe à l'échelle intercommunale. Nous, on pense vraiment qu'il n'y a pas de problème technique. Ça demande du temps, ça demande du budget, ça demande surtout de la volonté politique. Et donc, ça demande d'avoir, malheureusement, un président ou une présidente d'Interco convaincu de la nécessité du partage du pouvoir. C'est un vrai enjeu, en tout cas pour 2026.
Pour continuer sur le verrouillage législatif, une loi de 2014 a intégré et valorisé la notion de chef de file. Et par exemple, pour le développement économique, c'est la région qui est chef de file. Donc là aussi, ça pose des difficultés.
Déjà, dans les compétences communales et intercommunales, il y a énormément de choses qui touchent le quotidien des habitants. Le transport, l'alimentation, le logement, la gestion de l'eau, voilà, c'est des choses très concrètes. Donc déjà, pour nous, l'important, c'est de faire la preuve et de se mettre en réseau et de montrer combien notre système politique est possible à ce niveau-là, communal et intercommunal. On n'a pas du tout vocation pour l'instant collectivement à se présenter à d'autres échelons parce qu'on trouve que ce n'est pas des bons échelons pour faire de la démocratie directe. On est aussi influencé par la pensée municipaliste, communaliste, avec un théoricien qui s'appelle Murray Bookchin, que j'invite à lire, qui dit qu'en gros, un peu comme en Suisse, il faut changer la manière dont on pense l'État et l'organisation collective, et donc de penser plus des confédérations de communes qu'un fonctionnement en État-nation. C'est-à-dire que le pouvoir part de la base et on décide collectivement au niveau des communes ce qu'on peut déléguer au niveau supérieur de l'intercommunalité, voire de la région, voire de l'État. Donc c'est vraiment repenser de fond en comble le mouvement. Pour y arriver pour nous, il faut déjà faire la preuve que ça marche au niveau local, au niveau intercommunal, et se fédérer pour pousser une réforme. Mais à la fin, du bout, c'est la Constitution. Il faut pousser une réforme constitutionnelle. On a l'impression que nous, qu'on n'a pas encore les billes et le concret assez fort, assez puissant, assez partagé, que la démocratie directe est possible pour pousser un mouvement constituant qui devra partir de la base et des territoires.
Bon, ben au moins, on est un petit peu mal barré pour entamer ce changement culturel qui changera les électeurs en citoyens. On est mal barré car aucune liste n'a cette fibre démocratique. Toutes sont liées à des partis politiques qui ont donc un agenda national et puis qui sont comptables de ce qui a été fait auparavant. On l'avait vu avec la coopérative, avec Angers Coopérative. Maintenant, quand vous parlez à bon nombre d'habitants d'un parti politique, ils voient le tout pourri. Aucune liste n'a donc n'est donc détachée au Mans des partis. Alors ensuite, une fois élus, ces listes peuvent quand même s'orienter vers la démocratie, mais bien sûr, ça se fera sous la pression des populations. Les auditeurs fidèles se souviendront de Murray Bookchin et du municipalisme libertaire, renommé communalisme, cité par notre interlocuteur. On vous rappelait l'existence d'émissions sur le sujet dans l'épisode précédent. Et puis, y a plein de bouquins sur le sujet dans vos librairies préférées, à ne pas confondre avec les supermarchés de la culture. Mais en effet, le but, au bout du bout, c'est de secouer le cocotier tout entier jusqu'à la Constitution. À partir de la base, bien sûr. Donc, à partir des populations, à partir des populations qui habitent dans les communes. Seulement, une fois la Constitution devenue démocratique, il faudra encore surveiller les égaux comme le lait sur le feu. Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là,
que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, je rappelle que vous pouvez trouver des informations sur sarthe.demosphère.net et sur larnapé.info, larnapé avec un E, bien sûr, à la fin. Vous pourriez apprendre, par exemple, que, comme tous les samedis, malheureusement, il y a une manifestation de solidarité avec les Palestiniens à 14h, place de la République. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que si ça s'arrêtait un petit peu là-bas, il n'y aurait pas besoin de faire des manifestations de solidarité. Également, une manifestation à 15h, un rassemblement plutôt. Non à la loi Duplon 2, la loi Duplon 1, vous aviez détesté. La loi Duplon 2, ça ressemblera étrangement. On rappellera que l'ami Duplon avait été auparavant l'un des responsables de la FNSEA. Donc du coup, forcément, maintenant qu'il est député, il continue à soutenir les petits copains de classe sociale. Non à la loi Duplon, ça se passe le samedi 7 février à 15h pour les auditeurs du direct sur la place de la préfecture. Et puis, il se passe aussi d'autres choses. Je vous enjoins à regarder sur sarthe.demosphère.net et par exemple gardez votre samedi 14 février 15h non pas pour aller arroser votre dulciné de cadeaux puisque je rappelle que l'amour n'est pas lié forcément à la consommation, non, l'amour c'est un sentiment, ça ne s'achète pas. Une réunion d'information samedi 14 février à 15h face à l'aire de camping-car, vous savez, sur la muraille, 4 rue Alphonse Poitevin. Il y aura une réunion d'information avec des crêpes pour faire sauter le projet immobilier qui a pour but de détruire cette friche-là où on va retrouver de la bestiole, de la faune et de la flore qui étaient préservées depuis des dizaines d'années. Pour en savoir plus, il y a une pétition sur change.org. Non au projet immobilier, non à la destruction des arbres et de la faune en plein centre-ville. Ouais, ce qui va à l'encontre de tous les discours de ceux qui se font passer pour des des écolos et qui ont même un plan canopé pour sauver les arbres. Je crois que le temps qui nous était imparti touche à sa fin. C'est pourquoi, en attendant de se retrouver ici ou ailleurs, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Mm-hmm.